Donc, on arrive à la dernière intervention de cet après-midi et elle ferme le cercle que Valérie Lacquian a ouvert au début. Elle nous a parlé du passé de la société évangélique et maintenant nous apprenons le présent de la société évangélique et non seulement cela, nous l'apprenons par la bouche de son président et je pense que nous sommes tous orgueilleux que vous avez accepté l'invitation de nous en parler.
C'est une responsabilité d'être le dernier quand tout le monde est fatigué. J'ai cette particularité d'être de la société évangélique, mais aussi de l'oratoire. C'est le hasard qui fait bien les choses. Comme disait quelqu'un, le hasard, c'est quand Dieu opère incognito. Vous avez dit beaucoup de choses. Il faut que je vois ce que je coupe. Je ne savais pas juste où vous alliez, alors... Je voulais dire quelques mots d'abord sur le... justement pour bien la séparation entre l'Église libre et l'oratoire. Donc l'oratoire qui a été construit par l'architecte Louis Brochet. Je rappelle qu'il a fait aussi lui qui a fait les plans de la pélisserie, de l'Église protestante des eaux vives et puis de la salle de la Réformation. Ce qui m'a frappé, c'est que lors de l'inauguration, en 1834, il n'avait que 26 ans. Ça veut dire que lorsqu'on a confié le mandat des plans d'une chapelle, on les a confiés à un jeune homme de 24-25 ans. Je suis épaté de voir ça, c'est étonnant. Donc, comme il a été dit, parallèlement à l'école de théologie, les membres, les amis se retrouvaient le dimanche pour un culte ensemble. Donc, la société évangélique exerçait les activités d'une paroisse sans être une église. On a cité aussi que Gossen avait beaucoup de succès avec l'école du dimanche. Quand on pense 130, 150 enfants qui venaient l'écouter, il parlait avec beaucoup d'images du prophète Daniel. Et puis, quelques années plus tard, il est venu cette question, faut-il créer une église? On l'a dit aussi, c'était l'époque proche de la révolution Fasi. En parenthèse, le début de la société évangélique a été un moment aussi du point de vue social, politique, aussi un grand moment, puisque c'était le moment où le départ des Français, 1814-15, de l'armée française, après les Genevois ont dit on aimerait venir des Suisses, les Suisses ont dit on aimerait bien, on est d'accord vous les Suisses, mais ça serait bien que Genève touche la Suisse, parce que quand on va sortir, maintenant c'est le jardin botanique, on arrive en France, puisque toute cette région était française. Donc il a fallu le congrès de Vienne, puis ensuite de Paris, pour que toutes les communes de ce côté deviennent genevoises, donc suisses. Et ça a été le même problème de ce côté où c'était encore la Sardaigne. Puisque, oui, la Sardaigne est restée jusqu'en 1860, je crois, avec le comté de Nice, sont venues françaises, alors que nos communes, Verrier, tout ça, 1835, il y a le monument au rondeau de Carouge. Donc, en même temps que ces grands mouvements, que ce soit le réveil ou au moment de ces décisions de créer une église, c'était le moment où en même temps il y avait des grands mouvements politiques à Genève. C'est sous l'impulsion de Bernard de Watteville qu'un groupe de réflexion fut créé en 1847. Celui-ci approuva l'idée de se constituer en église organisée sur type presbytérien. Suite aux travaux du groupe, donc l'église se constitue en église évangélique libre. Sa confection de foi a été achevée, elle fut rédigée par les grands hommes du réveil, Louis Gossen, Mère d'Aubigné, César Malan, Émile Gertz et d'autres. Et voici comment le président de la société évangélique annonce cet événement dans un discours d'ouverture de la 18e assemblée annuelle tenue à l'oratoire les 20 et 21 juin 1849. Une transformation importante s'est opérée dans notre intérieur. Une de nos stations d'évangélisation la plus ancienne, la plus considérable de toutes, celle de l'oratoire, s'est détachée de nos sociétés et s'est constituée en l'Église évangélique, en se réunissant pour adopter une organisation commune à des chrétiens de cette ville qui jusqu'ici avaient été rangés sous d'autres dénominations. Le président expose ensuite que la constitution de la nouvelle Église, offrant toute garantie pour que la société pût, avec confiance, émanciper sa principale station d'évangélisation à Genève, et lui remet l'œuvre de l'oratoire. Donc c'est le moment où c'était vraiment Horatio. Ensuite, on en a déjà parlé. Donc en 1907, l'école de théologie, devenant autonome, quitte Tabazan pour se fixer à l'Athénée. Puis, quelques années plus tard, c'est la société évangélique qui part, et la paroisse, qui restait seule locataire, a pu racheter les bâtiments aux descendants de ceux qui avaient foncé au début pour 20 000 francs de l'époque, qui valait un peu plus que ceux d'aujourd'hui. Organisés librement selon le rappel, les caractères spécifiques des paroisses de l'ELG sont unis en église pour poursuivre ensemble une même mission. On m'a demandé de parler de l'église, de la société évangélique aujourd'hui. Alors, je vais citer quelques citations. Par exemple, en 1908, il y avait encore 78 colporteurs. Ils ont vendu 3307 Bibles, 20377 Nouveaux Testaments et 31358 portions de la Bible. Je cite aussi un fait tiré de ces procès-verbaux. En 1915, lettre d'un évangéliste français mobilisé. Dieu m'a gardé, béni, soutenu. Mes chefs ont de l'estime pour moi, et mon capitaine, quoique catholique, m'a lui-même proposé de faire le culte le dimanche où nous sommes au repos. Quelquefois, il m'a appelé auprès de camarades mortellement blessés pour que je reste avec eux dans la tranchée. Et puis donc, après 39-45, la société évangélique a vécu une période assez ralentie. Ensuite, elle organisa quelques activités qui n'existent plus aujourd'hui. On a cité les stations d'été. Souvent, il y avait même des organisés que des pasteurs puissent faire leurs vacances dans une station de montagne. Et puis, comme ils prêchaient le dimanche, il y a eu les camps missions. Beaucoup de jeunes sont partis en France, sur les plages, dans des campings. Il y a eu beaucoup de choses se sont faites. Et puis, il y a eu les rencontres protestantes. Certaines ont eu lieu même dans les locaux du l'université, il y a eu des grands noms de l'époque, Jacques Ellul, Henri Blochier, Pierre Courtial, Vittorio Subillin, Pierre Chaunu, etc. Et puis, la dernière activité, à la fin du XXe siècle, fut l'ouverture d'une librairie au papier. Ce fut une mauvaise idée et nous en gardons un très mauvais souvenir. La direction ne fut pas à la hauteur, les ventes ne couvraient pas les charges, il fallut s'en séparer. En 2004, la société Vangie traverse une crise. Suite au départ de son directeur et la fermeture de la librairie, s'ensuit une forte réduction de ses membres. L'image reçue pour la société évangélique était celle d'un arbre devant perdre ses feuilles, traverser l'automne et l'hiver avant la venue des nouvelles feuilles. Durant plusieurs années, notre principale activité a été de rechercher par la prière, la réflexion, les contacts, ce que Dieu désirait pour la société évangélique. Aucune idée particulière n'émergeait, la fermeture définitive était évoqué, mais sans conviction. Mais il y a un plein d'œuvres du Seigneur. Au mois de mai 2017, l'un de nos membres rend visite à l'église évangélique libre de Poitiers. Il est témoin du travail d'implantation d'église mené par le pasteur de cette église dans une ville de la région, Rouillé. À sa grande surprise, il découvre que la chapelle du lieu, inscrite au patrimoine, porte une plaque rappelant que, à la fin du XIXe siècle, voilà, Rouillé compte bon nombre de fidèles qui relèvent de la Société évangélique de Genève. Ça nous a donné un choc de penser qu'il y avait encore des témoignages de cette époque qui existaient encore aujourd'hui. Et en discutant avec le pasteur qui menait ce projet, ce dernier a suggéré que la société évangélique redevienne à ses débuts, à savoir visiter et soutenir par la prière des lieux de culte en perte de vitesse en France, être un point d'appui, un relais pour ses pasteurs, évangélistes, unions d'église, implantateurs d'église, qui s'intéressent à préserver et à créer de nouvelles communautés dans ce pays. Partageant cette interpellation lors de notre Assemblée Générale du mois de mai 2017, décision est prise de suspendre la fermeture de nos sociétés, croyant que Dieu a encore quelque chose à nous dire. Par ailleurs, trois d'entre nous ont rencontré un frère membre de la CNEF, Conseil national des évangéliques de France. Ce frère, qui est à l'origine de trois implantations d'églises dans la région de Franche-Comté, et le CNEF constate qu'aujourd'hui, il manque un soutien par une prière ciblée sur ses projets. Selon ce frère, c'est donc dans ce secteur que la société évangélique pourrait jouer un rôle particulier. Et à la même période, nous avons des contacts avec les responsables d'un réseau Jura-Bresse-Mâcon. Ce qui nous a frappé, les régions citées ci-dessous étaient abondamment visitées au cours du Xe siècle par les agents de la société évangélique. Le Saône-et-Loire particulièrement, il y a eu beaucoup de travail là-bas. Ils ont créé des écoles, des communautés, des églises qui malheureusement, pour la plupart, se sont éteintes. Et ça nous avait pensé à un texte de la Genèse, au chapitre 26, les versets 17 à 19. Isaac partit et alla dresser son camp dans la vallée de Guérar, où il s'établit. Il s'installa et fit déboucher les puits qu'on avait creusés du temps de son père Abraham et que les Philistins avaient comblés après la mort d'Abraham. Et il leur donna les mêmes noms que son père. En creusant dans la vallée, les serviteurs d'Isaac découvrir une source d'eau vive. En priant pour ces implantateurs d'églises, nous prions pour ceux qui débouchent les fruits de l'eau vive de l'évangile que nos pères ont creusé au XIXe siècle et que l'ennemi a bouché. Lors de notre assemblée d'automne, nous tentons d'y voir plus clair concernant cet appel. C'est vrai, il est relevé que la prière reste d'une modernité extraordinaire, que cette activité est pour tout âge, et c'est ce qui convient à nos forces actuelles. On n'est pas tout jeune. Il est également noté que ces appels viennent de France et que les personnes porteuses de l'appel ne se sont pas rencontrées et que cette vision rejoint une des raisons d'être de la société évangélique, à savoir de proclamer la parole en France. Nous aurions une responsabilité dans la prière, mais aucune responsabilité opérationnelle sur place, ce que nous ne pourrions pas assurer. Après un tour de table, nous décidons d'entrer dans cette vision et de soutenir par des prières ciblées sur l'implantation d'églises. Alors comment définir cette vision ? Être un point d'appui par la prière pour l'évangélisation et l'implantation d'églises. Cela veut dire que, dans un premier temps, être centré sur la prière, cette vision pourra évoluer. Nous voulons rester à l'écoute du Seigneur pour cela. Notre engagement dépendra aussi des forces et des dons qui seront les nôtres à l'avenir. Alors comment mettre en pratique ? Pour que la prière soit ciblée, nous estimons qu'il est nécessaire d'être en lien régulier avec ses frères et ses sœurs impliqués dans les projets. Outre les nouvelles régulières par courrier ou téléphone, ce lien devra également être maintenu par les visites sur place. On n'a pas pu en faire beaucoup à cause du Covid. Alors, pour que ça fonctionne, il faut maintenir des liens, informer, aménager des rencontres, organiser des rencontres avec les pasteurs de ces localités, prévoir ces visites. Tout cela est le projet que nous avons maintenant. En résumé, nous voulons rester ouverts à ce que l'Esprit Saint nous montrera pour l'avenir, espérant que cette vision entraînera la société évangélique dans un service utile pour l'avancement du règne de Dieu. Conscients de nos faiblesses, nous prenons pour nous les paroles que l'Éternel a adressées à Josué. Je t'ai donné cet ordre, prends courage et tiens bon, ne crains rien et ne te laisse pas effrayer, car moi, l'Éternel ton Dieu, je serai avec toi pour tout ce que tu entreprendras.